l'officiel des réseaux commerciaux.
Les rencontres.
Bonjour à tous, merci d'être présents, de donner de votre temps pour expliquer un petit peu ce que vous faites et surtout pour essayer de donner des clés donc aux personnes présentes dans la salle pour réussir leur stratégie d'implantation. Donc un sujet absolument primordial dans le succès des réseaux. En préparant cette conférence, je me suis surtout rendu compte qu'il était très facile de se tromper dans ce domaine et que la moindre erreur pouvait coûter très très cher. On le verra avec un cas d'école. Je vais donner la parole en premier à Laurent Cruche, qui est quand même assez incontournable sur le sujet donc de territoire et marketing. Vous expliquerez un petit peu ce que vous faites au sein de Territoire et Marketing. Déjà, de manière concrète, comment vous travaillez-vous avec les réseaux qui viennent vers vous, qui ont des problématiques d'implantation? Comment vous prenez les choses de manière très simple?
Bonjour. Donc, je dirige Territoire et Marketing, qui est un institut que j'ai créé il y a 22 ans, qui est un institut d'études de marché et une société de géomarketing. Donc, on a deux métiers à l'intérieur de la société. Alors, la question est un peu large pour démarrer, mais si on reste sur le thème du territoire, en fait, on a des réseaux de franchise ou même des commerçants qui ont un premier magasin et qui se posent la question de leur développement. Donc, la première chose qu'on leur indique, c'est qu'ils vont faire un saut dans l'avenir. Et que ce saut dans l'avenir nécessite de prévoir son développement et donc d'analyser les futurs territoires dans lesquels ils doivent se projeter. Donc il existe des prestations, des études de géomarketing qui permettent de couvrir le territoire. Et selon la taille du réseau, on va avoir avec eux, il y a trois grandes familles d'études, et on va leur proposer soit de faire ce qu'on appelle une étude de zonification, soit de faire une étude de conditions de réussite. Je pense que Nicolas aura l'occasion d'expliquer ce qu'il a fait et dans quel ordre ils ont fait ce choix d'étude. Puis, dès que le réseau arrive vraiment à un stade important en nombre d'unités, quand on dépasse 200, 300 unités et beaucoup plus, ce que les réseaux attendent, c'est des outils qui leur permettent de prévoir le chiffre d'affaires de manière, entre guillemets, presque automatisée. Alors, je ne veux surtout pas rentrer dans le sujet d'avant, mais en tout cas, de manière systématique, en ouvrant un logiciel, en plaçant un point sur une carte, et en ayant une prévision de chiffres à peu près juste. Donc on les accompagne d'abord sur la structuration de leur développement, avant tout autre type de prestation, qui est de dire, aujourd'hui j'ai X unités dans mon réseau, une ou plus d'une centaine, et si je dois décider d'une prochaine ouverture, dans quel ordre de priorité je dois le faire, et où.
Emmanuel Jury, c'est vous. Vous, de quelle manière vous abordez les choses en termes d'implantation? Vous avez une vision un petit peu différente?
D'abord, je suis très énervé.
Déjà?
C'est Michel qui m'a énervé. Parce que Michel, il a raison. Il nous a donné de la prospective. Super, bravo Michel. Mais comment je fais, moi, dans les rues, avec tout ça? Il va falloir que je me dise, par exemple, un magasin de 100 mètres carrés, il va falloir que je fasse 200 parce qu'il va falloir mettre le robot dedans. Ah non? Bref, en tout cas, effectivement, le développeur que je suis, puisque notre agence Progressium est une agence de développement, nos équipes retail, hein, parce que là on parle exclusivement retail, a ouvert à peu près 1000 magasins hein, en tout. Donc on a un certain background sur le sujet. Mais ça m'intéresse vraiment effectivement à la prospective, parce que nous aujourd'hui, le métier qu'on nous demande, c'est d'être très court-termiste, puisqu'on doit ouvrir là dans les 8, 9, 10 mois, allez, entre 9 et 18 mois, en gros, hein, en général, pour ouvrir les restaurants. C'est des fois un petit peu plus long parce qu'il faut acheter un terrain, etc. Et donc, effectivement, du coup, moi, ça m'interroge. Donc, c'est pour ça que je suis très énervé. Mais je suis très énervé pas après Michel. Je suis énervé après les bailleurs. Puisque, effectivement, alors j'espère qu'il n'y en a pas, sinon je vais passer des sales quarts d'heure. Effectivement, aujourd'hui, dans le phénomène de rente, des loyers qu'on a, hein, parce que pour moi, c'est un sujet au-delà des études de marché que fait Laurent, et au-delà du juridique que fait François-Luc, pour moi, le loyer ne sert plus à rien, et si ce n'est que de payer une obole à un rentier. Donc je suis très emmerdé pour dire, effectivement, il faut de la RH, je pense qu'on baisse les loyers, on paye mieux les gens. Stratégie première, la RH en premier. Pour mettre des robots, il faut de l'argent. pour automatiser les points de vente, les rendre interconnectés, donner du sens à notre visite dans le point de vente, etc. Il faut de l'argent, et cet argent, bah, faut le piquer au bailleur. Ce qu'a compris Westfield, hein, puisque effectivement, eux, ils ont pigé que il fallait absolument trouver des startups, monter des deals, des pop-up, des machins, donner du sens, voilà. Donc, j'en viens à ma réponse, pour le coup. En fait, comment on appréhende une implantation, ben, je dirais que moi, la première chose, c'est des outils, de la méthode. Le concours de... c'est par là qu'il faut se mettre, effectivement, c'est bien entendu terminé. Donc ces outils, cette méthode, nous, on a la nôtre, hein, évidemment, hein, ça ne souffre pas d'amateurisme, c'est fini. Avant, on pouvait ouvrir, avant, on pouvait dire, bah, tant pis, c'est un peu moyen, hein. Je sais que de toute façon, le franchisé, il ne marchera pas. Bon, c'est pas très grave. Aujourd'hui, c'est pas possible, ce n'est plus possible pour des raisons juridiques, pour des raisons économiques, pour tout ce qu'on veut. Donc ça, voilà. Après, il faut regarder les enjeux des boîtes, les enjeux, les attentes, les besoins, etc. Hein. Et les enjeux, là, on parle de franchise, mais on peut aussi parler de succursale. C'est pas la même chose d'ouvrir une succursale que d'ouvrir une franchise. Déjà, souvent, on n'a pas les mêmes marges, souvent, on n'a pas les mêmes problématiques, souvent, on n'a pas les mêmes besoins. Et puis, par rapport à cette méthode, de toute façon, il y a un moment donné, et c'est corroboré par les études que fait Laurent, de toute façon, dans une ville, quelle qu'il soit en France, puisqu'on a quand même un maillage du territoire qui est assez atypique chez nous, hein, puisqu'on n'a pas beaucoup de très grands centres commerciaux, hein, on a 800, 1000 centres commerciaux en France, beaucoup de Leclerc, beaucoup de petites surfaces, on n'a pas des très très gros jumbo comme ça peut être le cas chez nos voisins. Pour moi, il y a the place to be, il y a l'évidence. C'est quoi l'endroit où il faut se mettre ? Voilà. Et il faut les connaître, il faut les savoir, et puis vérifier que notre perception, nos a priori, nos croyances nous permettent de vérifier que cette place to be, et par les outils, hein, les outils que nous avons, nos développeurs, mais les outils qui sont délivrés par les prestataires, on puisse effectivement vérifier tout ça.
Alors justement, si on en vient aux outils, quelles sont les informations qu'il faut rechercher pour trouver the place to be, justement, Laurent, peut-être.
Oui, alors.
De manière un peu plus technique.
Micro est fort. Tout le principe des études et ce qu'évoque Emmanuel, je vais y aller de ma petite citation. Il y a une citation de Bernanos qui dit « On ne subit pas l'avenir, on le fait ». Et en fait, la phrase n'est pas complètement finie, on le fait au présent. Donc c'est vraiment important de comprendre que on a tous dans la salle, et d'ailleurs ça nous arrive, Emmanuel et moi, d'avoir le même avis, mais parfois de se retrouver en conflit. En fait, il y a un besoin immédiat de chiffre d'affaires, il y a un besoin immédiat de fonctionnalité, donc d'un emplacement qui va tout de suite fonctionner. Dans le monde des études, bien entendu qu'on répond à ce besoin, puisqu'on est par nature opérationnel et que les réseaux ont besoin d'ouvrir et de faire un chiffre d'affaires et une rentabilité immédiate. Mais si on ne se pose pas la question du futur de son réseau, de son déploiement, de qu'est-ce qui va se passer quand je me mets à l'endroit idéal, le fameux place to be qu'évoque Emmanuel, on peut se retrouver aussi dans des situations où ce premier point de vente était hyper logique aujourd'hui, mais dans 3 ans ou dans 4 ans, va me poser des problématiques d'emplacement, de situation auxquelles je dois faire attention maintenant. Puisqu'il faut effectivement avoir un plan de développement commercial comme un plan de route, c'est ces fameuses études géomarketing, c'est elles qui permettent d'arbitrer entre ce choix impératif de the place to be, le centre commercial idyllique, le centre-ville génial qui aujourd'hui est en plein développement, la ville de Nantes où tout le monde devait aller il y a une dizaine d'années parce que c'était l'endroit où il fallait que tous les Parisiens aillent, par exemple, puis Bordeaux, puis ainsi de suite. Mais voilà, aujourd'hui, si vous vous implantez à Bordeaux sans réfléchir au projet d'avenir, la rue Bordelaise, par exemple, qui va peut-être ou pas impacter sur le commerce, bah, dans votre plan de développement, vous commettez une erreur. Alors, ça, c'est pour un peu faire le lien avec Emmanuel. Des données, il en existe une foultitude. Mais on revient quand même toujours, c'est ça qui est assez rigolo, sur des données assez classiques, assez courantes, assez répétitives. Alors, pour faire mon professeur, vous avez toujours des données issues du recensement de la population. Donc les données de l'INSEE, pour le cas de pour la population, avec toutes les informations démographiques, économiques, sur les revenus. Donc il y a plus de 2000 types de données différentes disponibles au niveau de l'INSEE. Puis il y a à des niveaux géographiques extrêmement fins, c'est-à-dire jusqu'à des carreaux de 200 mètres sur 200 mètres. Donc on peut vraiment parfois, à 10 maisons près, connaître les revenus des gens qui se trouvent à tel endroit. On va avoir des données sur l'équipement commercial. Exactement ce que dit Emmanuel. D'ailleurs, on a fait des travaux communs. Si on schématisait un peu notre propos, quelqu'un qui n'a jamais été commerçant, quelqu'un qui l'a été, c'est lui. Quelqu'un qui va sur le terrain, quelqu'un qui n'y va jamais, je schématise un petit peu. Mais quand on a fait, nous, une analyse des centres commerciaux et de leur dynamique et de leur poids, en essayant de challenger un peu les informations officielles que nous donnent les propriétaires des centres commerciaux, par exemple, ou des centres-villes, c'est le même débat, on a comparé ce qu'on avait en études, en statistiques, avec ce qu'Emmanuel considérait comme étant pour le prêt-à-porter ou pour la restauration. Voilà. Parce que le problème, il est là, en fait. Il est qu'on utilise à peu près les mêmes types de données. C'est un peu comme une recette. Vous avez toujours du lait, de la farine, du beurre et des œufs. Et pourtant, la façon dont vous allez les mélanger, les grammer, les faire cuire, les pétrir et ainsi de suite, va vous donner soit une pâte feuilletée, soit une pâte brisée, soit une pâte à pizza, soit un gâteau, soit une... Enfin, voilà. Et c'est exactement ça avec la donnée. Donc on a de la donnée de type INSEE, on a de la donnée de type équipement commercial, on a de la donnée de type flux, on en parlera dans la deuxième conférence, on a de la donnée qui est de la donnée publique, gratuite, de plus en plus de data ouverte, d'open data, qui tombent dans le domaine public parce que l'Europe facilite à ce que les organismes même publics mettent de la donnée à disposition qui avant coûtait extrêmement cher. Il faut savoir qu'avant, avoir les données de l'INSEE pouvait coûter jusqu'à 150 000 euros. Maintenant, on est sur des données qui valent quelques 2-3 000 euros, voire qui peuvent être gratuites si on sait comment les intégrer. Vous avez de la donnée liée à tout ce qui est transport, tramway et ainsi de suite. Donc c'est toutes ces données-là qu'on va manipuler, des données spécifiques à des métiers. Selon que vous êtes un assureur ou selon que vous êtes une chaîne de restauration, vous n'allez pas rechercher les mêmes choses. Voilà, c'est ces données-là qu'on utilise en géomarketing tant qu'elles ont une dimension géographique, c'est-à-dire tant que je peux attribuer un chiffre, une valeur, à une forme géographique qui va de l'adresse, 14, le 9, le 11 bis rue Scribe, jusqu'à remonter à 200 mètres, à un iris, à une commune. Voilà le principe. Il n'y a pas de données magiques, entre guillemets.
Oui,
voilà, et c'est ça que je voulais dire, c'est qu'il n'existe pas de données Armageddon. Le marteau de Thor, ça existe dans les Marvel, c'est super efficace, mais ça n'existe pas. Donc aujourd'hui, on a des tendances un peu poussées par ces approches d'intelligence artificielle qui est de dire une seule donnée serait magique et me permettrait d'analyser ma zone et de prendre une décision. C'est absolument faux, et je le sais d'autant plus qu'on les teste, bien entendu, et que pour un même secteur d'activité, deux enseignes qui peuvent être a priori absolument identiques, qui se font une guerre folle, quand vous analysez leur clientèle, leur zone de chalandise, leur performance, deux magasins l'un à côté de l'autre, des chiffres d'affaires absolument différents, vous vous rendez compte que la même donnée ne peut pas servir pour l'une ou pour l'autre.
Emmanuel Jury, en tant que développeur, vous utilisez aussi le même type d'outils. De quoi vous vous servez ?
Pas tout à fait, en fait. Je vais prendre l'étude de marché de Laurent. Il va me dire, Manu, c'est super, ton client il va faire 1 million d'euros. Bon. Alors, c'est de la réassurance pour moi, hein, ce que fait comme travail Laurent. Effectivement, j'en ai besoin. Mais, je vais regarder The Place to Be, je l'ai déjà dit tout à l'heure. Ensuite, ce qui implique quand même pour les franchiseurs de connaître le territoire français, ce qui est loin d'être une évidence.
Ah oui, ça vous l'observez
Oui, je confirme que effectivement, tous les franchiseurs ne sont pas des stars de la géographie. Malheureusement, il y a un moment donné, il y a une stratégie de déploiement. Malheureusement, il y a un moment donné, il va falloir aller sur le terrain. Et malheureusement, il va falloir connaître ces zones de chalandise qui ne sont pas toutes les mêmes. Certaines enseignes vont marcher très très bien sur des zones touristiques. D'autres vont marcher très très bien dans des centres co, d'autres en retail park, d'autres parce qu'il y a un ciné à côté, etc., etc. Alors moi je fais une analogie par rapport à la concurrence. Voilà ce qui m'intéresse, ou en tout cas sur les activités connexes et complémentaires. Je donne un exemple très concret sans délivrer de secret. Donc nous développons chez Progressum l'enseigne Concept Store La Chaise Longue. J'ai besoin Quand j'ouvre ce genre de magasin sur 150-180 mètres carrés, GLA, ça c'est pour nos amis bailleurs, j'ai besoin, par exemple, d'avoir un nature et découverte. Alors c'est pas que ça me rassure, hein, parce que j'ai pas vraiment besoin d'être rassuré, c'est juste que je sais, si j'ai le chiffre du nature et découverte, ce que j'arrive globalement à avoir si je suis dans un centre-co, sur du déclaratif, alors j'ai un peu plus de mal en centre-ville, parce qu'il y a moins de données, effectivement, et puis ben, en centre-ville, on est... pas obligé de remonter ces chiffres, contrairement à un centre commercial. Donc voilà. Et je sais que je vais réaliser au moins X kilos euros de chiffre d'affaires, puisque par rapport au nature et découverte, et en l'occurrence, pour le coup, c'est 20%. Donc je sais que mon point mort, 20% de nature et découverte, qui globalement font à peu près 2 millions et demi d'euros, moi je sais que je vais faire au moins 20, au moins. Donc c'est mon point mort. Donc je vais calculer mon taux d'effort, mon loyer, mon implantation, versus cela. Hein, parce qu'après, c'est de la cerise sur le gâteau, le reste, en fait. Hein. Et donc là, on va commencer à gagner de l'argent. D'accord ? Les chiffres des autres activités, bien entendu, ça m'intéresse. Par exemple, quand je m'implante, où vous voulez d'ailleurs, dans n'importe quel centre commercial, on va dire au Mans, tiens, les Jacobins au Mans, la France a cette particularité que, en fait, notre performance en chiffre d'affaires au mètre carré en retail est entre 5 500 et 6 000 euros TTC par mètre carré. Donc c'est similaire à la Grande-Bretagne, donc c'est plutôt pas mal. Et plus on descend dans le sud, plus les chiffres sont pour lingue. Donc en Espagne, on est à 3 4 000 euros le mètre carré, etc. Mais les loyers sont indexés aussi, donc voilà. Donc je sais ça. Une fois que je sais ça, je vérifie avec ma matrice... les chiffres d'affaires. Alors par exemple, quand j'implante la chaise longue, je regarde aussi le prêt-à-porter, qui est pour moi un super indicateur de performance, qui a bien baissé aussi en mètre carré, hein, voilà. Et je prends ma performance de mètre carré sur tous les secteurs d'activité hors restauration, puisque la restauration, pour le coup, ne me servira à rien. Hein. Sauf si j'implante un restaurant, mais pour le coup, pour la chaise longue, ça ne me sert à rien. Donc je sais, par exemple, qu'au Jacobin, la performance, elle est à peu près... de tête entre 4008 et 5002 le mètre carré. Brest, quand j'ai ouvert Jean Jaurès à Brest, on est à 6003 le mètre carré. Géant Quimper, on est à 6600 le mètre carré. Et donc je sais que moi, mes mètres carrés à moi, je vais les indexer par rapport à cette performance du centre. C'est-à-dire que je peux très bien faire moi 5000 le mètre, 5002, 5004, en fonction de la performance du centre. Je ne vais pas avoir les mêmes performances sur mon enseigne, qui par ailleurs, bien entendu, a une moyenne de chiffre d'affaires mètre carré, évidemment. Bon, voilà. Mais ça me permet de bien réindexer et d'être beaucoup plus précis. Ensuite, effectivement, il y a le fameux taux d'effort, hein, donc je vais pas m'étendre là-dessus parce que ça m'énerve. Je suis toujours très énervé avec les loyers, moi. Et par ailleurs, je suis pas bailleur, donc peut-être je serais moins énervé si j'étais bailleur. Donc le taux d'effort, hein, loyer plus charge plus taxe foncière, pour moi, il faut qu'on ait un objectif tous commun de faire baisser les taux d'effort. Pour moi, par exemple, on a coutume de dire « ouais, c'est 10% ». Non, je ne suis pas d'accord. C'est pas 10%, c'est 7, c'est 6. Parce qu'on pourra payer les gens, enfin, et notamment dans le PAP. Nicolas nous en parlera tout à l'heure. Moi, je trouve que 1 800 euros brut pour une directrice de magasin en PAP, je trouve que c'est légèrement du foutage de gueule. Ensuite, les conséquences de nouvelles implantations, on y est ou pas déjà ?
Oui, on peut y aller.
J'y vais.
On a la chance d'avoir un...
Bon, je tiens le micro de toute façon, donc en avant. Hein. Non, parce qu'en fait, je tiens le micro pour empêcher Laurent de parler. Enfin, c'était ça un peu le...
Mais je vais lui redonner la parole.
Mais voilà. Les conséquences, elles sont énormes. Hein. Les conséquences en termes d'image, évidemment, hein, bien sûr. Alors, pour ceux qui sont experts en franchise... Les conséquences sur le document d'information précontractuel, peut-être on en parlera avec François Luc tout à l'heure, et puis la dégradation des notes auprès des banques, hein, et des organismes de financement, CIJ et autres, BPI et tout ça. Donc ça, c'est désastreux. Et puis en plus, c'est aussi un autre problème, c'est-à-dire qu'on a un à-coup à la signature, on rentre un droit d'entrée, on rentre des ressources qui vont disparaître, puisque de toute façon, la mauvaise implantation, parce qu'on le sait en fait, hein, en vrai, hein, on va le signer quand même, mais on sait que c'est pas très bon tout ça, finalement. Et puis j'en viens à ce que je vous disais vendredi, un vrai drame pour moi dans la franchise, et même dans les succursales, hein, par ailleurs. Hein, et j'ai eu la démonstration hier, je vous expliquerai. Savoir dire non, ça plutôt c'est un problème de posture. Hein, donc là, moi je pense, hein, que vraiment là-dessus, c'est un problème de posture, de comportement, qui sont parfois accidentogènes. parce que dans toute décision, il faut renoncer. Et savoir dire non sur une implantation, ben, faut le faire. Il faut vraiment le faire, que ce soit pour un franchisé ou une succursale. C'est encore plus dramatique quand c'est un franchisé à mes yeux. Mais il faut savoir le faire, il faut dire non, là on n'est pas sur le bon emplacement, on n'est pas sur le bon vibe, on n'est pas sur le place to be, on n'est pas sur le bon loyer.
Justement sur ce sujet, savoir dire non et savoir surtout se remettre en cause, on a la chance d'avoir quand même un cas d'école avec Un Jour Ailleurs. Est-ce que vous pouvez nous expliquer de manière, je dirais même non synthétique, puisqu'en fait tous les détails sont extrêmement intéressants, comment vous avez changé le moteur de l'avion en plein vol et comment vous avez fait le choix de tout remettre à plat, de fermer des unités, d'en ouvrir d'autres, de renoncer aussi à certaines choses. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu le contexte déjà ?
Alors bonjour à tous. Je ne sais pas si c'est une vraie chance, mais finalement le commerce, moi ça fait 25 ans que je suis dans le commerce. Je suis un bébé de Vred, des frères de Vred qui faisaient des ouvertures. Le modèle de Vred, c'était les sous-préfectures de moins de 50 000 habitants. Un modèle extraordinaire, ils étaient propriétaires des murs, il y avait un appartement de fonction au-dessus, ils vous payaient le papier peint, ils vous payaient le chauffage et le téléphone. C'était il y a 25 ans. Aujourd'hui, quand j'entends 1800 euros pour un cadre, donc c'est un responsable de magasin qui gère du personnel, qui gère du stock, c'est énorme aussi et ça ne veut rien dire, ça ne veut plus rien dire parce qu'on ne les garde pas, parce que ça c'est du brut. Et que maintenant avec l'impôt à la source, ça fait encore plus drôle depuis le 1er janvier. Et vous vous dites qu'à un moment, on n'a rien sans rien. Le problème du commerce, c'est vrai que tout a augmenté, les loyers, les charges, mais pas obligatoirement les salaires et surtout pas le chiffre d'affaires. Et le chiffre d'affaires, c'est la première source de marge qui fait qu'on peut se payer derrière et qu'on peut effectivement engager des projets. On a beaucoup moins de fondateurs qui sont à l'exercice, des gens dont c'était la propre maison. Quand la maison Henri Devred achetait un site, c'était le sien, c'était son patrimoine. Aujourd'hui, on appartient beaucoup à des boîtes sous LBO. C'est très bien parce que ça permet de l'enrichissement rapide aussi. Mais par contre, effectivement, cette course à l'échalote fait qu'à un moment, certaines boîtes, comme Un Jour Ailleurs, pour en venir à Un Jour Ailleurs, qui est le modèle dont je vais vous parler aujourd'hui, une boîte qui a 35 ans, qui a eu une énorme réussite, parce que c'est une belle boîte, qui a une belle notoriété d'image, hein, tout le monde a été au moins une fois dans sa vie au mariage avec une robe Un Jour Ailleurs. Sauf qu'aujourd'hui, elles ont 70 ans et qu'on ne se marie plus. Donc, non, mais c'est une blague, mais c'est une vraie problématique. Chez Célio, quand on a vu des gens arriver, des jeunes arriver en basket et en tongs, on s'est dit comment on va leur vendre des costumes demain. Parce que ça, c'est un problème. Et là, aujourd'hui, quand vous alliez à un mariage, vous achetiez 4 tenues et puis vous étiez super contente et vous les collectionniez parce qu'à chaque mariage, vous rachetiez 4 tenues. Aujourd'hui, vous achetez une tenue, elle doit être portable. Et ça, c'est un des premiers constats. Deuxième constat, c'est qu'une société comme Un Jour Ailleurs, 35 ans, les clientes avaient 40 ans il y a 35 ans. Elles ont 70 ans aujourd'hui. Alors même si l'espérance de vie augmente, on est très content, à un moment, elles consomment beaucoup moins. Parce qu'elles consomment beaucoup, 60-65 ans. C'est une tranche d'âge super intéressante en conso. 70 ans et plus, c'est beaucoup plus compliqué, surtout par temps de canicule. On est ce qu'on appelle météo-dépendant. Emmanuel vous dirait, voilà, nous, dans le textile, s'il fait chaud, elles ne viennent pas. Vous voyez, on a eu un hiver super. Il n'a pas fait beau de l'été. Et le premier jour des soldes, donc on n'a rien vendu. Premier jour des soldes, il fait 35 degrés. Il fait trop chaud. On vend que des t-shirts. Voilà notre vie de tous les jours. Donc effectivement, il faut avoir un cap. Parce que si vous ne partez pas d'un constat, c'est-à-dire des études, effectivement, que vous ne vous fixez pas une stratégie et que vous vous y tenez, et là, moi, je lève mon chapeau, on a un actionnaire aujourd'hui qui nous permet de garder le cap, et ça, c'est aussi une des conditions de réussite. Au-delà de l'investissement, c'est de dire tous les matins, quand le chiffre n'est pas là, de dire, qu'est-ce qu'on fait ? On continue, on s'entête, on arrête la promo, parce qu'il a fallu aussi prendre des décisions drastiques. C'est qu'à un moment, quand vous avez une société qui ne marche plus, en gros, dans le textile, vous avez du stock. Et le stock, comme disait un de mes présidents, c'est comme des pommes de terre. Quand c'est germé, ça ne vaut plus rien. Et c'est la vraie vie. Alors, on a monté des super outlets, mais il n'existe pas la solution après les super outlets. Il y a les soldeurs, mais après, c'est à la mer, et on n'a plus le droit de détruire les stocks. Donc, tout ça remet en question toute la supply chain. C'est des vraies problématiques. On devient, c'est vrai, finalement, on était des commerçants. Moi, j'ai commencé sur un pas de porte. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on a besoin d'outils pour nous aider et pour travailler, justement, à cette évolution de marché. Donc, Un Jour Ailleurs, le constat, boîte vieillissante, boîte ringarde, faut le dire, mais vaut mieux se connaître hein, quand on part dans ce genre de débat. Parce que si vous commencez à vous faire un rêve, vous, à votre niveau, vos clients ne vous suivront jamais. Nous, on trouve que c'est super ce qu'on fait, on trouve que la boîte est magnifique, et à chaque fois que j'en parle, moi je suis dans un dîner où je suis avec des amis, Ah oui, mais c'est pas un peu ringard ton truc ? Si, si, voilà. Mais viens voir, on a fait quelques petits trucs depuis 10 ans. Donc, en plus, la mémoire française est durable. On dit qu'il faut une génération pour changer les choses. Donc, je peux vous dire que, effectivement, quand on a commencé à dire on va changer certaines choses, vous pouvez pas simplement, comme avant, dire on va refaire un concept magasin. Avant, on repeignait un peu, on changeait la moquette, vous savez, puis ça repartait. C'est terminé, ça. C'est plus possible. Donc, tous les acquis, en fait, du commerce traditionnel, c'est pour ça que les centres-villes se sont vidés, parce qu'on pensait simplement qu'en ouvrant le rideau, on avait assez de clients. Moi, j'ai commencé, on tapait à la machine, vous savez, on avait des bancs de caisse en France, ça allait jusqu'au bout du magasin. Puis après, on a inventé les caisses informatiques, parce qu'il fallait évacuer très vite les clients, il y en avait trop. Alors après, on a fait beaucoup de cabines, beaucoup de caisses. Puis aujourd'hui, on n'a plus assez de clients, il faut les travailler différemment. Donc, qu'est-ce qu'on a fait concrètement chez Un Jour Ailleurs ? On a revu le stock. Il a fallu que l'offre produit évolue. Il a fallu moderniser l'offre. Ça, c'est la première chose. Vous êtes obligés. Puis après, bah, pour que les clients rentrent, il faut que le concept évolue aussi. Parce que les colonnes, c'est bien joli. Je veux dire, au niveau architectural, ça plaît à certaines personnes. Ça a gagné des prix en 2003, mais pas en 2020. Donc, il a fallu refaire un concept. Et quand vous refaites un concept sur une chaîne de 180 magasins, qu'il n'y a eu aucun investissement dans la société, c'est-à-dire que les clims ne sont pas aux normes, donc il faut changer les clims, que vous décidez de passer au LED, parce qu'à un moment, à l'éclairage, vous pouvez remettre de l'halogène qui grille et qui fait que vous travaillez, que vous pétez vos clims, que RSE, etc. etc. Donc ça, c'est long. Et à la fois, on le fait en 3 ans. Donc tout ça, on change rapidement. En même temps, effectivement, je pense que les RH sont le point prépondérant. C'est-à-dire qu'une boîte est viable que si vous avez un réseau de gens qui aiment la boîte, qui connaissent le produit et qui ont envie de raconter une histoire au client. Alors aujourd'hui, on appelle ça de manière prétentieuse l'expérience client. Vous allez vivre une expérience. Oui. Enfin, surtout, faut qu'il se passe quelque chose. C'est ça la grosse différence aujourd'hui. Vous rentrez dans 50 magasins, vous faites un centre commercial, il n'y a même plus de porte d'ailleurs, vous rentrez, vous sortez. Vous savez, moi quand j'étais petit, quand on achetait chez un concurrent, on repassait à la voiture, déposait le sac dans la voiture pour ne pas rentrer avec le sac chez le concurrent. C'était ça les règles. Aujourd'hui, elles vous ouvrent le sac, elles vous disent « voilà, je voudrais un truc pour aller avec ». Donc, c'est vraiment des choses qui ont vraiment changé. Donc, si vous ne racontez pas une chose différente, donc pour ça, on a créé une école de vente. Et là, on a été chercher des experts. On a été chercher des experts qui viennent de où ? Ben, des palaces, de l'hôtellerie. C'est quoi les codes qui font que vous allez être bien accueillis, que vous allez vous sentir chez vous, que vous allez être accueillis différemment ? Nous, c'était « Madame, bonjour » quand je suis arrivé. Vous voyez le truc ? 75 ans et plus. Aujourd'hui, bienvenue chez Un Jour Ailleurs, est-ce qu'on peut vous proposer un rafraîchissement ? Il y a de la canicule, etc. Il y a des tas de choses qu'on met en place. Alors, on n'a pas réinventé la roue, hein. Attention, hein. Moi je ne suis pas là pour expliquer. On s'est simplement mis au niveau de service. En fait, on s'est mis à la place du client. C'est bête à dire, mais on a tous oublié le client. Hein. Et aujourd'hui, quand vous refaites ça, bah, effectivement, une fois que vous avez dit tout ça, quand le client rentre, nous, notre problématique, ce n'est pas quand il est dedans. Dedans, ça va. Nous, notre problème, bah, c'est là qu'on rencontre Territoire Marketing, c'est comment on le fait venir et comment on ne se trompe pas d'emplacement. Et donc, à ce moment-là, on a un parc, c'est une boîte qu'on appelle Procos, moi j'appelle ça les boîtes Procos, elles se sont ouvertes dans les années où Procos est arrivé, donc les centres commerciaux. Vous ouvriez dans un centre commercial, c'était formidable, ça montait au ciel, il y avait des chiffres de dingue, il y avait 400, 500 entrées jour, c'est encore le cas pour certaines enseignes, mais plus toutes. Aujourd'hui, quand je vous dis on décide d'arrêter la promo, ben, moins de trafic. Et quand vous ne faites pas de promo dans un centre commercial où toute la concurrence dit « faut arrêter la promo hein, », mais où toute la concurrence fait de la promo, bah vous devenez très très cher. Parce qu'Un Jour Ailleurs, c'est une boîte moyenne gamme plus. On dit luxe accessible, enfin prix vente moyen aujourd'hui 130 euros. Panier moyen, nouvelle cliente 150 euros, près de 200 euros. Donc vous voyez, on n'est pas du tout sur les codes du marché où on est sur des paniers inférieurs à 100. Donc tout ça, bah, il va falloir... On peut rester aujourd'hui, concrètement, on va quitter un centre comme Belle Épine. Belle Épine, cathédrale du commerce en France. Enfin, vous voyez ? Mais aujourd'hui, nous, un Primark qui arrive pour nous, c'est une catastrophe, parce que c'est des gens qui viennent consommer chez Primark, c'est formidable, tant mieux pour Primark, il est en train d'en tuer beaucoup d'autres, mais surtout, ils prennent une place de parking. Et surtout, il y a du bouchon pour accéder au centre. Donc, à un moment, bah, vous vous bouffez la queue et à un moment, bah, il faut choisir sa bataille. Et si vous connaissez un peu la Belgique, rue Neuve est une des grosses rues commerçantes de Bruxelles. Vous avez à Anvers la deuxième rue commerçante. On a fermé rue Neuve aussi, parce que trop populaire, parce que oui, il y avait du trafic, mais on travaillait 2 mois par an, hein, les 2 mois de solde. Le problème, c'est que le loyer, on le paye tous les mois. Donc, qu'est-ce qu'on a fait ? On a fermé et on a réouvert sur des petits sites, des magasins de quartier, où on a ouvert des boutiques plus petites, où on s'est remis en face de notre client. Et pour ça, bah, effectivement, on a commencé par faire une étude de réussite. Quels sont nos quick wins ? Qu'est-ce qui plaît chez un joaillier ? Qu'est-ce qui fait que nos magasins qui fonctionnent bien, qu'est-ce qui se passe ? C'est dans quel environnement ? C'est dans quel type de ville ? C'est quoi la clientèle ? Alors on s'est aperçu, chose surprenante, que quand il y avait plus de retraités, on fonctionnait mieux, à votre avis. Bon, donc la Côte d'Azur, c'est chez nous. Voilà. Le deuxième truc qu'on a découvert très vite, c'est SP+. Bah oui, ça paraît évident, mais n'empêche que, ben, à un moment, quand vous êtes dans un centre populaire, bah, il faut se poser les bonnes questions, parce qu'on continue à vous faire payer du loyer. Donc ça, c'était le deuxième. Et en termes d'environnement, effectivement, on a été chercher non seulement nos concurrents, parce qu'effectivement, le commerce n'est qu'une histoire de concurrents. Si vous êtes seul, vous restez seul. Si vous avez des concurrents, on dit que vous êtes meilleur ou moins bon que les autres. À vous d'être le meilleur. Donc les concurrents. Et après, un truc énorme, c'est les enseignes affinitaires. Des choses qui n'ont rien à voir avec le textile. À Maison du Monde, par exemple, on sait que c'est des enseignes qui sont super pour nous. Par exemple. Donc ça, ça va nous rassurer aussi. Etc, etc. Donc tout ce qui a été dit, nous, bien sûr qu'on le met en pratique. Maintenant, la vraie différence, c'est que nous, on fait le chèque. Et on fait le chèque pour 10 ans. Donc quand on se gourre, je peux vous dire que derrière, l'investissement... Aujourd'hui, on dit toujours, on cherche à 3 ans le chiffre idéal du magasin. Aujourd'hui, on est plutôt à 5 ans. Il faut être très clair. Je parle du textile. Hein. Il y a des gens qui vont beaucoup mieux que nous. Donc le textile aujourd'hui, même si c'est une science qui est maîtrisée, parce qu'un très vieux métier, il évolue énormément, énormément, énormément. Et si on ne va pas chercher chez des experts métiers, mais on s'est rencontré aussi avec Emmanuel, parce qu'il faut aller chercher des gens qui connaissent parfaitement leur expertise. Aujourd'hui, c'est un métier d'expert. Et encore une fois, avec toute cette expertise, on arrive à se tromper. On arrive à se tromper. C'est extraordinaire, parce que vous avez un maire qui arrive, qui décide de mettre votre rue piétonne. Vous achetez un magasin, il est en rue circulaire. Elle devient piétonne, c'est 3 ans. 2 ans de travaux, 1 an pour qu'elle revienne, 3 ans, je ne sais pas comment vous faites pour tenir 3 ans sans trésor. Et c'est ça tout le temps. Un centre commercial qui décide de s'embellir. Formidable. Pendant les travaux, vous nous aidez pour le loyer, vous faites quelque chose ? Ah non, 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 ça sera bien. Après, vous allez voir, il y aura beaucoup plus de clients. En attendant, chou. Donc, le truc, c'est que vous êtes condamné à faire de la croissance dans un contexte qui est à la baisse, qui est très compliqué. Allez voir un bailleur, expliquez-lui que ce qu'il a acheté, même pas un bailleur, moi je rachète souvent des baux, et je lui explique que ce qu'il a acheté, 250 000 euros il y a 10 ans, ça ne vaut plus rien. Il a du mal à me croire. Et pourtant, ça ne vaut plus rien. Le loyer mensuel. Souvent maintenant, c'est des acquisitions. Les mecs ont un crédit à rembourser. Ils ne veulent pas baisser la valeur faciale de leur loyer. C'est terrible. Donc tout ça, nous, on l'intègre. Et on va faire tourner des business plans qui sont... Maintenant, ce n'est plus de dire ça monte aux arbres. On a arrêté. C'est quoi le point mort ? À combien on perd de l'argent ? Voilà, déjà, on commence par là. Et à partir de là, effectivement, on avance et on commence à travailler. Alors, si on parle plus particulièrement des partenaires, c'est d'autant plus compliqué qu'aujourd'hui, il faut savoir qu'il n'y a plus une banque française qui prête pour un dossier textile. Ça, c'est fait. Donc, si vous n'avez pas un apport comme ça, vous n'avez pas une expertise comme ça, c'est très compliqué. Donc là, les études sont primordiales. C'est des dossiers qui vont maintenant en banque, nos études marketing. Parce que pour motiver un banquier, si la personne ne vient pas du métier, si elle a 14 magasins déjà, qu'elle a déjà de la réussite, le dossier est plus facile. Mais aujourd'hui, vous avez des tas de gens qui sont en train de changer de métier, qui s'investissent commerçants, et il y en a qui réussissent. Mais le problème, c'est que vous devez leur garantir une réussite. C'est des gens qui signent un contrat avec vous pour 10 ans. Le savoir dire non, il est primordial. C'est la première rencontre. Déjà, est-ce qu'on a des affinités pour travailler ensemble sur notre projet ? Est-ce que notre projet commun est bon ? Et ensuite, on y va. Et là, ça devient de toute façon compliqué. Dernier dossier, c'était Van. On avait la validation des bâtiments de France, truc qui n'arrive jamais en France, parce que quand vous voulez faire du commerce en centre-ville aussi, vous avez des amis. Il faut que l'ardoise soit comme ça, il faut que la façade soit comme ça, il faut que ceci. À côté, par contre, ils vous ouvrent un tacos, il n'y a pas de problème, ça pue la frite, mais on s'en fout. Nous, il faut 20 000 balles de travaux. Bon. Donc ça, on l'avait à Vannes, vous voyez, ville sauvegardée, qui est magnifique d'ailleurs. Et là, ben, le syndic. Ah ouais, non, attendez, là, ça ne va pas du tout. Vous allez nous changer la porte. Nous, on voudrait savoir, parce que qui va changer ? Puis on voudrait une porte neuve, puis on voudrait un digicode, et puis on voudrait... Et là, il a fallu que j'aille voir La copropriété, là. Alors là, vous avez des investisseurs, ils ont tous 70... Remarquez, on a des points communs. Ils ont tous... Oui, oui, il y en avait une... Je l'ai invité au cocktail d'inauguration. Vous avez l'investisseur qui est comme ça dans son siège, qui dit, nom de Dieu, le digicode, elles vont se le foutre. Vous voyez ce que je veux dire? Et vous, vous êtes là, non, on va s'arranger le digicode, on va le payer. Oui, et on voudrait des badges, parce que maintenant, il y a des badges. C'est plus pratique. Ah ben oui, on va mettre des badges. Reconnaissance faciale, ça va? Parce que autant qu'on le fasse tout de suite, quoi, je veux dire. Et c'est ça le commerce aujourd'hui. Et on n'a pas commencé à gagner un rond. On n'a pas ouvert la boutique. Et après, on va ouvrir la boutique, et il va faire 40 degrés. On aura du stock, et on paiera du personnel. Donc, c'est un métier de passion, plus que jamais, je pense, de gens qui y croient, un mélange d'expertise. Je pense que pour revenir un jour ailleurs... c'est le mélange des compétences, un nouveau comité de direction aussi, on a un président qui vient de la finance et ça, ça aide beaucoup aussi, c'est quelqu'un qui sait compter. Aujourd'hui on ne peut plus avoir que des commerçants. Moi je suis un très bon commerçant, je déteste parler aux banques, chacun son truc, et on a un président qui sait le faire, et je crois que c'est aussi une complémentarité de savoir-faire. Il faut être expert dans son métier, et l'expertise elle ne peut pas être générale, l'expertise elle est sur un tronc. Il ne faut pas avoir honte de ce qu'on fait, il faut savoir le faire. Et puis après, même quand vous faites tout ça, ben vous vous dites, c'est dur, quoi. Avant, je peux vous dire, vous aviez une bonne idée, vous faisiez plus 20. Oh, le passage à l'an 2000, tu te souviens? Plus 25. Super, on avait même fait des gilets avec 2000, tous vendaient, c'était pas un problème. Ben, le 2001, ça a été un peu plus compliqué, hein, vous voyez. Il fallait reprendre les gilets.
Il faut accepter une prise de risque importante si on vient à l'implantation. Il y a toujours une prise de risque et un inconnu. Comment on peut border les choses, François-Luc Simon, au niveau juridique? Comment vous travaillez avec vos clients sur cette question de l'implantation?
Alors, je vais répondre à votre question et en même temps rebondir sur ce qui a été dit. Je crois qu'Emmanuel Jury et monsieur à l'instant, vous avez, et peut-être même Laurent, mais il le dit régulièrement, il faut savoir dire non. Je vais immédiatement aller droit au but. Il y a une hypocrisie entre ceux qui font des études pour savoir si la réponse est oui ou non. Parce que la fonction première d'une étude, c'est de savoir s'il faut le faire.
Go, no go.
Go, no go. Bon, ça c'est peut-être 10% du secteur en fait. Hein. 80% du secteur... On ne fait pas d'études parce que c'est go. On a déjà décidé qu'on y allait.
En amont. Oui.
Alors, on a décidé qu'on y allait parce que, primo, on n'a pas réfléchi ou on n'a pas envie de réfléchir. Secondo, parce que comme on sait tout sur tout, c'est ce que j'appelle les champions du monde, on sait tout sur tout, donc on sait qu'on va réussir. Donc évidemment, on n'a pas besoin d'études, pourquoi faire. Tertio, ça peut être aussi... je suis un professionnel du secteur. J'ai ouvert 30 supérettes. Pourquoi vais-je faire une étude? Je sais comment ça se passe partout en France, même là où j'ai jamais été. Je le sais. Et puis on prend des gamelles, hein, évidemment. Quoi trop aussi parce que on ne fait pas d'études parce que ça coûte de l'argent. Donc si en plus on considère qu'on sait tout sur tout et qu'il faut payer. On ne va pas payer pour avoir une réponse qui ne nous intéresse pas, puisque ça remet en cause la représentation qu'on se fait de soi-même. Vous voyez ? Donc, ces différentes raisons qui peuvent d'ailleurs se cumuler conduisent 80% des acteurs à ne pas faire d'études. Et donc à susciter des plantages et donc des contentieux que j'ai vocation à rattraper côté enseigne. Il y a 10% restants, ce sont les hésitants, je dirais. Si, bon, ils le font, ils le font pas. Mais il y a 90% quand même des acteurs qui ne font pas des études pour savoir, comme je le disais en commençant, pour savoir s'il faut le faire ou pas. Ils font à la limite une étude pour conforter une décision prise en amont de faire. Le go a été pris, a été décidé coûte que coûte avant l'étude. On va faire, oui, on va faire un business plan. Le franchisé va faire un business plan, va utiliser le résultat, le chiffre d'affaires prévisionnel issu du business plan. Et puis, vous savez quoi? S'il n'est pas suffisant, le chiffre d'affaires prévisionnel du business plan, eh ben, on va l'augmenter. Comme ça, on est sûr d'avoir le prêt parce qu'on n'est plus dans la logique du go, no go. on est uniquement dans la logique « je veux mon prêt ».
Ça, ce sont des situations...
Eh oui, mais c'est... évidemment. Donc, je me retrouve... Alors, j'ai plaidé ça hier, d'ailleurs, hier après-midi, pour une enseigne de restauration. L'enseigne lui dit « tu fais faire une étude ». C'était pas chez toi exceptionnellement. Tu fais faire une étude, l'enseigne fait... Bon, un prestataire fait une étude, plutôt à peu près un peu élevée, mais bon, fait son étude. Le franchisé voulait absolument son prêt, il a augmenté l'étude, hein, il a mis un petit coup. La banque a été contente, hein, elle a vu un chiffre d'affaires prévisionnel, mais elle aurait pris le dossier avec ou sans étude, parce que la banque est prête de toute façon, si... les fondamentaux, en tout cas, en apparence, sont là. Et puis, bien sûr, derrière, il y a un plantage, puisqu'on fait 40% du chiffre d'affaires prévisionnel augmenté par le franchisé, qui a augmenté une étude qui peut-être elle-même déjà augmentée par rapport au réel. Donc, il y a une complicité, je veux dire, parfois, qui est grande et qui est répandue. Moi, ce que je dis, c'est qu'il faut faire de vraies études, c'est-à-dire aller sur place. On est d'accord ? Il faut aller sur place. Arrêtez de demander à des gens qui font des études, entre guillemets, qui ne sont pas de vraies études en réalité, qui sont de fausses études parce que les gens ne vont plus sur place, une sorte d'automatisation des études, mais qui font perdre à l'étude sa véritable qualité. Donc, total et compte rendu, primo, il faut faire de vraies études qui ont pour fonction unique de déterminer go no go. Secondo, il faut aller sur place, faire appel à des professionnels, utiliser les statistiques des instituts dont c'est le métier et le tempérer avec l'expérience des professionnels qui pourront se rapprocher au plus juste en fonction du concept. Et même si on fait cette démarche-là, on peut encore se tromper parce qu'une étude prévisionnelle, ça ne reste qu'une étude prévisionnelle. Il y a aussi toute la qualité de l'exploitant, hein, ses carences, et il en a parfois... ses qualités, il peut en avoir aussi, et ça viendra moduler le chiffre final. Mais si on n'est déjà pas dans cette démarche du go-no-go, et si on n'est déjà pas dans cette démarche, qui est un minimum pour moi, de faire des études par de vrais professionnels, dans ce cas-là, on va inexorablement aller vers le plantage, donc vers le contentieux.
Ce dont on parle là, c'est de la vitesse de développement, en fait, c'est-à-dire le besoin qu'ont les réseaux d'ouvrir. Alors, à plus forte raison en franchise, puisque avant d'ouvrir, pour le coup, en franchise, on gagne déjà un peu d'argent. Enfin, en tout cas, on a l'impression d'eux, puisqu'on va percevoir un droit d'entrée. Voilà. On va former des gens. Et puis, dès le premier mois, en fait, finalement, franchisé rentable ou pas, on s'en moque. Hein, on lui prendra le même pourcentage de son chiffre d'affaires, qu'il soit rentable ou pas, parce qu'il y a très peu ou quasiment, ou en tout cas, de ma connaissance, j'ai pas de contrat en tête, avec une progressivité, il y en a quelques-uns, mais avec une progressivité des royalties au fur et à mesure de l'atteinte de la rentabilité du franchisé. Et en fait, systématiquement, forcément, je vous donne ça comme sous forme de conseil, mais tous les réseaux qui ont dû aller très vite et qui, en plus, n'ont pas fait d'études, peut-être on fait trois années... rapide en ouverture, mais se retrouver après au point mort, enlisé. Alors je ne vous donnerai pas de nom, mais j'en ai, si ce n'est pas 100, j'en ai 50 en tête, de réseaux très connus, hein, et d'ailleurs qu'on estime tous parce que ce sont des bons professionnels, mais qui voilà, ont fait des ouvertures fantastiques, et puis enfin, avec un nombre d'ouvertures annoncées tous les ans, puis 10, puis 20, puis 50, puis 30, et puis se retrouvent bloqués, parce que tout ça, ce sont des bombes à retardement. La première année, ça tient, parce qu'on est financé. Puis après, on en a marre de tenir et d'être dans l'efficacité. Puis la deuxième et la troisième année, et là, on commence à plonger. Puis déjà que les franchisés qui gagnent de l'argent font des procès facilement au réseau, alors imaginez ceux qui n'en gagnent pas. Et il n'y a rien de plus invivable dans un réseau que de gérer des propriétaires qui ne sont pas payés, qui n'ont pas leur loyer, ou de gérer des... parce que les succursales ne sont pas rentables, ou de gérer des franchisés qui sont pas rentables, qui n'arrivent pas à payer non plus leur royalties ou atteindre le point de rentabilité et qui font des procès. Donc, c'est certain que... et en revanche, il faut aller doucement. C'est pour moi la première règle la plus importante. Il faut prendre son temps. Ça rentre dans le savoir dire non. Il faut obligatoirement se fixer une hiérarchie. Aucune ville de 50 000 habitants ne donnera le même chiffre d'affaires qu'une autre ville de 50 000 habitants. Voilà, un grand vendeur de hamburgers qu'on dit américain, mais qui est finalement très français, qui a plus de 1000 unités, 1400 unités, a des niveaux de chiffre d'affaires qui varient de x20 entre son plus petit chiffre d'affaires et son plus gros chiffre d'affaires. Un vendeur de hamburger a des chiffres d'affaires qui varient de 1 à 10. Donc en fait, les implantations sont tellement variées, les situations sont tellement particulières que sans m'opposer aux approches de type terrain qu'évoque Emmanuel en disant « Moi, pour mon enseigne X, je choisis une affinitaire qui est par exemple nature et découverte et c'est vers eux que je vais », c'est normal qu'on ait ce genre d'usage. Parce que le cerveau humain va être capable de prendre en compte quelques paramètres pour prendre des décisions. Mais d'ailleurs, c'est tout le sujet de l'intelligence artificielle et de la voiture pilotée. Quand on est sur la route, on a conscience de très peu de paramètres quand on conduit nous-mêmes. Le véhicule, on lui demande de gérer un nombre de paramètres infini pour qu'il arrive à prendre la bonne décision. Donc, forcément que ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a un paramètre particulier chez l'individu qui est l'intuition, qu'elle soit consciente ou inconsciente. Pardon pour l'aspect philosophique du propos, mais ça marche. Ça ne peut pas marcher tout le temps. Combien de fois votre intuition dans la vie de tous les jours vous a fait faire des bêtises ou croire que telle personne réagissait de telle ou telle manière et vous tromper ? Donc ces études, elles servent à ça. Elles ne sont pas un gage, comme Nicolas l'a dit, de ne jamais se tromper. Parce que là aussi, le nombre de paramètres pris est finalement limité. Je parlais de 2000 indicateurs et on manipule encore plus. Mais c'est essentiel de savoir que non seulement il faut savoir où aller et dans quel ordre, qu'il faut effectivement penser à l'avenir et comprendre qu'implanter un commerce, c'est multifactoriel. Et qu'un individu, tout aussi compétent soit-il, connaissant aussi bien toutes les villes de France, ce qui déjà est impossible, il n'y a pas loin de 5000 ou 7000 implantations possibles en France. 7000, ça veut dire que la personne à côté de moi ou tout développeur ici serait capable dans sa tête de savoir laquelle est la première et laquelle est la 7000e. Alors pour les 10 premières et les 10 dernières, je vous le concède, mais pour toutes celles au milieu, c'est impossible. Donc l'outil, il vient simplement chercher, enfin l'outil, le géomarketing dans sa démarche générale, vient juste mettre du sens, imposer par des chiffres, par de la statistique et aussi du retour terrain, parce que chez nous, il y a beaucoup d'études terrain qui sont faites et on le mélange par des chargés d'études qui vont sur le terrain tous les jours. Et donc, on remonte toutes ces informations pour rajouter de l'intelligence à la statistique. Et c'est ça qui évite les plantages. Il y en aura toujours. Mais ce qui est certain, c'est que si on va vite et qu'on ne fait pas de géomarketing, ouais, c'est autant conduire les yeux fermés et appuyer sur l'accélérateur. C'est la même logique. Vous allez rouler pendant un moment.
Ou alors être avec les aloufs sur le bidon d'essence.
Oui, c'est ça, voilà, ça, s'amuser exactement. On est quand même pas loin de la roulette russe.
Laurent, je pense que ça rationalise tout ce qu'on pense très bien. Moi, je crois que le premier critère, c'est vraiment de bien connaître le potentiel de sa boîte, de carrément être d'une transparence totale avec le partenaire, parce qu'il ne faut pas rêver, lui donner les critères de CA additionnel. Moi, ce qui va faire varier mon CA chez nous, par exemple, c'est les touristes. Si vous avez des touristes, ça va véritablement avoir un impact fort sur le chiffre d'affaires. Et l'étude ne le verra peut-être pas aussi facilement que ça. Mais tout ça, il y a aussi plus vous avez de boutiques, plus vous êtes fin dans votre analyse, mais n'empêche qu'aujourd'hui, partir sans études, enfin moi à un moment, nous payons les études des partenaires. Chez Célio, on partageait. Oui. Nous, on paye 100% de l'étude. Pourquoi ? Parce qu'on veut non seulement rassurer le partenaire, mais on veut se rassurer. Même si ce n'est pas nous qui allons payer le personnel, même si ce n'est pas nous qui payons le loyer, de toute façon, le stock, et je vais vous dire, quand on ferme un magasin, vous parliez de catastrophe, nous, on perd 90% de la clientèle. On ne la revoit pas ailleurs. Parce que les gens nous disent « Ah ben, vous n'êtes plus là, je ne vais pas faire la route maintenant, je fais plus une demi-heure, je fais plus trois quarts d'heure de route pour aller là-bas. » Parce qu'il n'y a pas que l'enseigne, je trouve chez quelqu'un d'autre. Donc, à un moment, véritablement, la promesse que vous faites à votre client, quelle qu'elle soit, si vous ne la tenez pas, que ce soit par l'emplacement, par la qualité de l'emplacement, le fait, j'étais dans un magasin hier, qui fait chaîne nationale, voire internationale, qui fait travailler des gens sans climatisation un jour comme hier, moi, c'est au tribunal que ça devrait se terminer. Parce que, franchement, aujourd'hui, c'est cette qualité, ce respect du client, il passe par là. Mais finalement, il n'y a pas plus heureux qu'un partenaire qui fait du chiffre et qui s'en sort, ils sont plus gourmands. Hein. Tout le monde se rend bien compte que les temps sont durs. Mais finalement, de corroborer, ça fait du sens, ça donne de la force, ça donne de la confiance dans le partenaire. Et à partir de ce moment-là, il y a beaucoup de choses qui disparaissent, beaucoup de messages sonars gênants qui disparaissent. Parce qu'on se pose des questions toute la journée.
François-Luc Simon.
Oui, juste pour rebondir sur un point, oui. Il y a essentiellement des têtes de réseau ou des franchiseurs ici ou des gens qui les conseillent. Moi, mon humble conseil aux têtes de réseau, c'est de leur dire deux choses. Essayez autant que faire se peut, enfin essayez même, c'est pas autant que faire se peut, essayez. Non, imposez-vous en fait, imposez-vous de demander à vos franchisés de faire des études. Il y a des enseignes comme McDonald's par exemple qui font même la double étude, c'est-à-dire le franchisé fait son étude de marché et McDo fait sa propre étude, histoire d'être sûr que l'étude du partenaire est bonne. Pourquoi ? Parce que leur objectif, c'est pas d'ouvrir. Leur objectif, c'est d'ouvrir s'il faut ouvrir. C'est le go-no-go. C'est que ça marche. C'est pas ouvrir pour ouvrir. C'est ouvrir et que ça tienne. Donc, on fait Intermarché aussi, deux études. Alors, il y en a qui font une étude. C'est déjà bien de faire une étude. Mais moi, j'exhorte surtout ceux qui font zéro étude et qui laissent les franchisés ouvrir sans étude. Puisque je pense pouvoir dire que souvent dans leur esprit, s'ils laissent ouvrir sans études, c'est que le but, c'est plus d'ouvrir que d'ouvrir pour que ça marche. Et c'est là qu'on retombe dans le travers que je voulais signaler hier. Donc, je dis à nos amis têtes de réseau, à nos amis franchiseurs, imposez-vous de faire des études pour que ce prérequis soit respecté. La deuxième demande, c'est que quand vous vous imposez de faire une étude, faites une étude, une vraie étude, pas un simili d'étude, pour se donner l'apparence ou la bonne conscience d'avoir fait une étude. Je dirais même que c'est même pire, en fait, de faire une mauvaise étude que de ne pas en faire, parce qu'au moins, quand on n'en fait pas, bah, on sait qu'on n'en a pas fait. Hein. Mais ça quand on en fait un semblant d'étude, au fait, on croit qu'on a fait une étude, mais donc on a de faux chiffres hein, en réalité qui ressortent de cette fausse étude. Donc, il faut faire de vraies études, mais pour faire de vraies études, il faut donner les éléments à celui qui va faire les études. Et c'est pas seulement prendre une société de géomarketing et lui dire « démerdez-vous, faites une étude », mais c'est la tête de réseau qui doit donner à cette société-là les éléments concrets, autrement dit réels, qui vont permettre à cette société-là de faire son travail. Ce qui veut donc dire, parce que ça c'est du vécu, j'ai un client que j'aime beaucoup d'ailleurs, qui est très sympathique, très sérieux, qui gagne même beaucoup d'argent, je lui dis « fais une étude pour toutes ces raisons-là ». Il se rapproche d'une société de géomarketing et il lui envoie... lui, il avait 300 points de vente. Hein, et il lui envoie, je sais plus, 5 PNL. Je dis au client, tu sais, il y a une différence entre 5 et 300. Pourquoi tu n'envoies pas les 300? Ah bah non, chez nous, jamais. D'accord. Mais les 5, c'est quoi ces 5 là? Bah, c'est un échantillon. Un échantillon de quoi? Bah, c'est l'échantillon représentatif de ce que ça doit gagner. Mais qui a décidé que c'était représentatif? Bah, c'est moi. Et d'accord, bah, tu vas faire l'étude alors pendant que tu y es. Hein. Donc soit c'est 300, soit c'est rien. Et c'était rien parce qu'il n'a pas voulu.
C'est les plus mauvais, compliqué. Non, les 5.
Comment?
C'était les plus mauvais en chiffres.
Non, mais je ne sais même pas. Mais je ne sais même pas. Mais c'est en plus, c'est une enseigne qui est particulièrement rentable. Mais même chez eux. Même chez les gens rentables, ça pose un problème. Alors, qu'est-ce que c'est chez ceux pour qui c'est plus difficile? Donc, c'est pas simple. La théorie, c'est bien, parce que c'est bien gentil, mais c'est pas simple en pratique. Et je pense qu'il faut aller vers cette professionnalisation. C'est ce que je crois. Donc, il faut s'astreindre à cette discipline, donc de faire une étude, une vraie étude, et de donner à celui qui est chargé de la faire les éléments qui lui permettent de travailler correctement.
On a parlé pas mal aussi dans le cadre de la préparation de cette table ronde sur la fiabilité des infos. Comment les vérifier? Comment sont-elles construites? Comment on se place de ce point de vue-là, Laurent?
Alors, François-Luc évoquait justement les informations transmises par le réseau. Nous, on nous a déjà transmis les 300, par exemple, mais avec des faux chiffres. Ça c'est quand même assez fantastique hein. Parce que bon voilà, on nous donne les chiffres qu'on veut dans un tableau Excel. Très sincèrement, et c'est l'homme d'études qui parle, comment vous voulez que je sois sûr que les 300 chiffres d'affaires qu'on m'a donné sont Voilà, ce sont les bons. Ou parfois, on me les donnait en TTC en me disant que c'était du hors-taxe, mais il a l'appui. Mais bon, l'erreur est humaine, elle fait 10 ou 20% selon les secteurs d'activité, c'est important. Alors, en fait, toutes les données un peu anciennes, un peu historiques, on va dire, j'ai parlé de l'INSEE, c'est le meilleur exemple, tout ça, ce sont des données fiables, sachant qu'on a une chance folle en France, c'est d'avoir des données extrêmement récentes tous les ans de recensement. Mais aujourd'hui, en 2019, j'utilise le recensement dit de 2016. Donc, par nature, les données sont fausses. voilà. Maintenant, on sait celles qui sont sérieuses, assez proches de la réalité, et ça, ce sont plutôt des données historiques. C'est vrai que les données sur lesquelles il faut être vigilant, c'est entre autres parce que c'est la grande tendance du moment, c'est toutes ces données de flux sur lesquelles, en plus, il y a des débats. On en parlera sur l'autre table ronde, donc je vais pas aller dedans, mais toutes les données toutes fraîches, récentes d'un opérateur qui vous dit. Moi, j'ai ce que personne n'a. Voilà. Alors, c'est très, encore une fois, c'est très Vivatec, c'est très intelligence artificielle. Et je dis ça avec beaucoup de.
Tu veux parler du téléphone, des
bips. Oui, ça peut être tout ce qui est, par exemple, le flux routier. D'abord, le flux routier, ça a été le cas de TomTom, par exemple, qui proposait ses bases à des montants dingues de 500 000 euros, des montants énormes. Puis après, la téléphonie mobile qui est en train d'arriver, avec en plus tout un ensemble de questions techniques qui se rajoutent aussi à des questions juridiques. Pour l'instant, c'est ça, quand je parlais des données un peu Armageddon tout à l'heure, les données marteau de Thor. Voilà, il faut être vigilant et prudent là-dessus. Mais historiquement, les trafics, le comptage de piétons dans un centre-ville, le comptage de flux dans un centre commercial, quelle porte marche mieux que quelle autre. Voilà, tout ça sont des données qu'il faut savoir manipuler. Et c'est là où l'expérience de tout le monde dans le process de décision est importante. Parce qu'il faut savoir ne pas uniquement dire à un client, dans mon cas, dire à un client, voilà, j'ai trouvé une base de données sur étagère, elle est très bien, qui plus est, elle ne coûte pas très cher, et qui plus est maintenant, elle est en open data, et comme elle est, entre guillemets, vendue, ben, prestataire, je considère qu'elle est officielle, donc je ne la challenge pas. On a la culture chez nous, mais j'espère ne pas être le seul avec mes camarades, avec mes confrères, on a la culture chez nous de checker, de vérifier, par le terrain ou par d'autres formules, si ce chiffre est juste ou est faux. Et en tout cas, sur toutes les données récentes, chaque fois que j'ai été amené à les regarder de près, à les challenger, j'ai vu trop d'énormités pour que ce soit satisfaisant. Voilà. Maintenant, il ne faut pas rejeter les choses qui sont nouvelles, il faut les utiliser, mais encore une fois, il ne faut les utiliser que pour ce qu'elles sont, de la data nouvelle qui n'existait pas, avec des sociétés qui sont là pour lever des fonds, parce qu'on est globalement, comme pour les réseaux d'ailleurs, on est globalement dans un monde de pitch où il faut en 2 minutes convaincre un board d'investisseurs et leur faire croire que dans 5 ans, ma donnée, mon outil sera le seul sur le marché. Donc, voilà, on est un peu plus tenté à fabriquer de la donnée que d'utiliser de la donnée un peu plus classique, un peu plus chiante, pour être clair, un peu plus habituelle. Voilà.
Laurent, peut-être une petite remarque. En plus de la qualité des données, il y a le partenariat qui se noue avec l'entreprise marketing. Parce que nous, ça fait 3 ans qu'on travaille ensemble. On en est à la 2e étude. On actualise nos études de réussite. Il y a tout ça qui est super important. Parce que dans l'interprétation des chiffres, moi, je prends toujours l'exemple avec Nicolas des rues Platinum. Nous, les rues Platinum, bon, c'est bien. On sait que c'est là qu'il y a le flux, mais c'est pas là où on va ouvrir, nous. Mais voilà, l'étude va dire, il faut être Platinum parce que c'est là. Et la connaissance aussi de la boîte qui fait l'étude des évolutions d'un jour ailleurs, ce qui était vrai il y a 3 ans chez un jour ailleurs, est obsolète, mais complètement obsolète aujourd'hui. Et il faut le régénérer. Et les mises à jour sont importantes, mais c'est aussi la connaissance de l'évolution de l'entreprise qui est super importante. Et à ce moment-là, on a un vrai échange entre gens de terrain, pas de terrain, c'est ce que je vous disais toujours, mais c'est ce partenariat et c'est cette connaissance de la problématique de l'entreprise.
Juste, je voulais ajouter d'une manière pratique, je vais reprendre mon exemple de la chaise longue, hein, c'est un système de commission affiliation, donc pas de paiement de stock, un peu comme du dépôt-vente. Moi, on m'a raconté aussi une belle histoire au début. En 2015, on m'a dit, c'est génial, hein, les magasins cartonnent. Puis après, bon, bah, j'ai pris ma voiture, je suis allé voir, j'ai vu des merdes innommables. Et puis surtout, j'ai vu que les chiffres d'affaires qu'on m'avait annoncés, c'était pas vraiment ça, en fait. Parce qu'on me disait, non mais attends, nous, on fait 1 million, hein. Ouais, et Annecy, là, rue Vaugelas, l'abri du commerce, pas loin du Zara, qui s'est barré d'ailleurs. 60 mètres carrés, c'est pas tout à fait un million, hein, le truc. Hein. Donc en fait, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai refabriqué tous les PNL, mais avec les affiliés. Et donc on a pris les comptes d'exploitation des affiliés, on a vérifié la vraie vie, combien ils payaient d'eau, combien ils payaient d'EDF, etc. Et puis bon, bah, j'ai évidemment hein, des problématiques de différence. Parce qu'il y en a, ils ont 5000 balles d'eau, l'autre, ils ont 3000. Enfin, c'est un truc de fou. Hein. Donc, en fait, j'en ai fait plusieurs. J'ai fait celui qui est dans un centre comme ça. Et donc, en fait, lui, il a plus de frais là-dessus. Voilà. En tout cas, je l'ai fait avec eux. Et j'ai vérifié les marges brutes qui n'étaient pas les mêmes que la commission dans leur bilan. Ce qui est compliqué en commission affiliation, hein, parce qu'on déclare le chiffre d'affaires commissionné et pas le chiffre d'affaires global. Donc, c'est assez dur. Enfin, assez dur, c'est pas non plus... problème énorme, mais faut les reconstituer. Il faut les... Voilà, je l'ai fait avec eux et aujourd'hui on a un produit fini de PNL qui est quand même vachement super fiable, quoi. Mais fait avec les affiliés.
C'est exactement ça que l'étude peut pas vraiment faire en fait. C'est toutes ces choses hyper concrètes qui doivent venir en complément du travail d'approche de développement.
On va devoir conclure. Mmh. Chacun, est-ce que vous pouvez exposer votre votre clé pour réussir son implantation? Allez, une ou deux clés. Qui veut commencer?
Au spécialiste.
L'écoute. L'opération. L'observation. Et puis beaucoup d'humilité.
François-Luc.
Faire de vraies études.
Il y a des actions, lui, c'est pas possible.
En cas, vous n'auriez pas compris.
Je vais me servir de François-Luc. Être constant dans l'usage des études. Et comprendre que ce n'est pas une science exacte, mais que c'est indispensable, incontournable. Et du coup, accepter que l'étude elle-même se trompe et réapprendre. Et quand on fait ça, au bout de quelques années, il faut quand même quelques années, les études sont d'une fiabilité redoutable.
Manuel ?
Moi, je suis toujours sur la posture. Hein. C'est les hommes hein, qui déconnent à un moment donné. Hein. De toute façon, on peut dire le local, le machin. Donc, pour moi, c'est lutter contre les a priori, les croyances, retravailler, bosser, s'enlever de la tête que là, c'est bien et là, c'est pas bien. C'est, voilà, faut bosser et remettre le compteur à zéro quand on revisite une ville qu'on a vue même il y a 6 mois. Voilà, faut toujours se remettre en question.
Je vous remercie beaucoup à tous les quatre. Je vous invite à aller prendre un petit café, faire une petite pause, échanger.
L'officiel des réseaux commerciaux.
Les rencontres.